Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Quel déconfinement pour la France ? Réponse mardi à partir de 15h à l'Assemblée. Le Premier ministre dévoile le plan du gouvernement. Déclaration suivie d'un débat et d'un vote. L'opposition ne veut pas être en reste. Le conseil scientifique lui a publié hier soir ses recommandations sur le déconfinement. Entre autres, port du masque dans les lieux publics, obligatoire dans les collèges et lycées, dit-il, et mise en place de règles de distanciation sociale pour minimiser les risques de deuxième vague d'épidémie de coronavirus. Alors que plus de 22 600 personnes sont mortes en France depuis début mars, ce dernier bilan d'hier soir. Mais peut-on éviter cette deuxième vague ? Vos invités à 8h20, Eric, ne sont pas du même avis.
Oui, la docteure Anne Goffard, virologue au CHRU de Lille et à l'Institut Pasteur de Lille, elle estime que la deuxième vague est inéluctable. Eh bien, ce n'est pas l'avis du professeur Jean-François Toussaint. Lui est physiologiste et directeur de l'IRMES. Eh bien, nous évoquerons le sujet avec eux. Vos questions, c'est dès maintenant 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, l'Organisation Mondiale de la Santé qui met en garde contre les dangers potentiels des passeports immunitaires que certains pays veulent mettre en place. L'appel de responsables religieux pour une réouverture des lieux de culte dès le début du déconfinement. Peut-être un nouveau report des 24 heures du Mans au mois d'octobre. Et puis le festival de BD d'Aix-en-Provence qui se réinvente sur Internet. France Inter. Relancer l'économie sans relancer l'épidémie, c'est le défi du gouvernement. Deux jours encore pour peaufiner son plan de déconfinement qu'Édouard Philippe doit détailler mardi après-midi, 15h à l'Assemblée nationale. Discours du Premier ministre, débat puis vote sur plusieurs chapitres. École, travail, commerce, transport notamment, port du masque obligatoire ou pas, modalité de déconfinement. Le gouvernement consulte encore ce week-end avant de trancher, mais l'opposition, Laurence Perron, est déjà prête à batailler.
Une course contre la montre avec de gros boulets aux pieds. On pourrait ainsi illustrer la situation peu enviable du Premier ministre. Pris en étau par une opposition qui a repris de la vigueur, la droite LR publie aujourd'hui dans le journal du dimanche son livret de propositions pour un déconfinement plus rapide que celui esquissé par le chef de l'État. Une réouverture des cafés, hôtels et restaurants dès le 11 mai, dans les départements les moins touchés, et un objectif au 15 juin pour tous. En revanche, sur l'école, la droite rejette l'idée de laisser aux parents l'appréciation du danger. La gauche est sur la même ligne, relayant aussi les avis des professionnels de santé qui considèrent la date du 11 mai prématurée. On ne peut pas sacrifier la santé sur l'autel de la reprise économique, insistent socialistes, communistes et insoumis, tandis que les écologistes déplorent déjà un retour à des solutions d'ancien monde, totalement inadaptées au péril à venir. À Matignon, on se dit tranquille, le plan sera prêt quand il sera prêt, assume un conseiller, ce sera mardi.
Laurence Perron, et pour alimenter ses réflexions, le gouvernement dispose des recommandations de son conseil scientifique qui hier soir a mis en ligne deux documents, l'un sur les modalités globales de déconfinement, maintien du télétravail s'il est possible, sur plus de la moitié du temps de travail, retour des déplacements en transport en commun d'une région à l'autre si les mesures barrières et les règles de distanciation sociale sont respectées. Autre préconisation, dans les établissements scolaires, le conseil scientifique, on le sait, n'était pas pour une reprise des cours avant septembre. Il prend acte donc de la décision qu'il qualifie de politique du gouvernement et recommande le port du masque, au moins alternatif, pour les enfants à partir du collège. Explication de Bruno Lina, virologue et membre de ce conseil scientifique.
On sait qu'un certain nombre d'enfants, à partir du collège et du lycée en tout cas, sont capables de comprendre comment on porte un masque. Ils sont surtout capables de maîtriser le port du masque. Mais vous savez, s'il n'y a pas de masque dans l'école, il y a quand même d'autres outils pour lutter contre la transmission, qui sont les mesures d'hygiène simples, le lavage des mains avec solution hydroalcoolique. C'est quelque chose qui marche remarquablement bien à partir du moment où c'est fait régulièrement. L'hygiène de l'environnement sera très important, les désinfections des poignées de porte, les désinfections de tout ce qui peut être touché par les enfants. Et au moment de la cantine, il ne faut pas que tous les élèves se retrouvent dans la même salle de cantine. La solution, c'est de servir les repas sur les pupitres ou les tables des élèves dans leur classe, ou toute autre solution où on voit que les enfants sont distancés les uns des autres de au moins un mètre. Eh bien, ça peut être une solution qui peut être trouvée pour à la fois les cours, l'enseignement et le temps du repas.
Le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique, et à propos de masques alternatifs, le journal du dimanche assure qu'il n'y en aura pas assez le 11 mai. Le quotidien s'est procuré une note datant du 14 avril des services d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. La production de masques en France serait, selon elle, insuffisante.
Et alors que le début du déconfinement se profile, eh bien, de nombreux parents se posent la question : que faire des enfants ?
Faut-il les faire retourner à l'école ou la crèche pour les plus jeunes ? Le retour à une vie collective collective avec plus de monde n'enchante pas vraiment certains parents, voire les inquiète carrément. Beaucoup pensent opter pour la garde à domicile, Cécilia Arbonnat.
Et si on rappelait la nounou ou la baby-sitter, démarche instinctive de parents fébriles qui explorent le répertoire de leur téléphone à la recherche d'un ancien contact familier. Antoine Grézeau, directeur général de la Fédération du service aux particuliers.
Est-ce que dans une école, est-ce que dans une crèche, les gestes barrières ou la distanciation sociale pourra être respectée? C'est sûr que quand on parle de 15 enfants en fonction des tranches d'âge, c'est assez difficile de pouvoir s'assurer de cela. La Caisse d'allocation familiale estime que c'est 50 000 enfants dont on parle actuellement pour les modes de garde à domicile. Et il me semble que ce mode de garde est complètement oublié par les pouvoirs publics.
Le risque pour lui, c'est que dans l'urgence, des familles fassent appel à des personnes non déclarées. Claire Lanneau, fondatrice de la société Babychou, qui dispose d'un réseau de 84 agences en France.
On peut très bien prévoir une garde en sortie d'école, une garde le matin à la maison, le lendemain l'après-midi. Nous demandons aux parents de prévoir un endroit spécifique, par exemple pour ranger les affaires de babysitter. Chaque intervenant est muni de son masque en tissu microfibre, de son gel antibactérien.
Une piste de réflexion peut-être pour éviter de sortir brutalement les bambins de la bulle protectrice qui est devenue notre foyer.
Cécilia Arbonnat est le dernier bilan en date en France de l'épidémie de coronavirus. 22 614 morts, 369 de plus en 24 heures, mais toujours un nombre de patients en réanimation en baisse, plus de 4700 tout de même. Aux États-Unis en revanche, le bilan est reparti à la hausse, 2494 morts de plus selon le dernier bilan et plus de 53 500 en tout. Le Royaume-Uni, lui, a dépassé les 20 000 morts dans les hôpitaux puisque le pays ne compte pas ceux en maison de retraite. Le Premier ministre Boris Johnson, infecté par le coronavirus et en convalescence depuis sa sortie d'hôpital le 12 avril, revient aux affaires demain. Le bilan mondial de la pandémie lui dépasse désormais les 200 000 morts.
L'Organisation mondiale de la santé émet des réserves sur la délivrance de passeports immunitaires.
Oui, que souhaitent mettre en place certains pays pour accompagner le déconfinement, avec un principe tout simple. Si vous avez été contaminé par le Covid-19, vous recevez un laissez-passer pour circuler librement. Sauf que ça n'est pas si simple, car les études sur l'immunité n'ont pas toutes les mêmes conclusions, Jérémy Lanche.
D'un côté, des études très partielles, comme celles menées en Chine, et qui révèlent que des singes malades du Covid-19 n'ont pas fait de récidive. Et de l'autre, les recherches de l'Institut Pasteur, et qui ne permettent pas d'affirmer que les anticorps développés après une première infection suffisent à protéger de la maladie. Pour l'OMS, il est donc prématuré de mettre en place des passeports immunitaires, voire même dangereux, parce que tous les tests sanguins ne se ressemblent pas et que tous ne sont pas fiables. Leurs résultats doivent être pris avec beaucoup de prudence. Certaines personnes pourraient être testées positives alors qu'elles ont en fait développé des anticorps à d'autres coronavirus proches de celui responsable du Covid-19. C'est ce qu'on appelle des faux positifs, avec tous les risques que cela comporte pour l'entourage. À en croire l'OMS, mettre en place des passeports immunitaires reviendrait aujourd'hui à favoriser l'arrivée d'une deuxième vague. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
La deuxième vague, la crainte des autorités, on y revient sur Inter à partir de 8h20, d'autant que les règles de distanciation sociale ont parfois du mal à être appliquées, notamment dans les magasins. Illustration dans un hypermarché de Rosny-sous-Bois en région parisienne, Jérôme Jadot.
Après une bonne demi-heure de queue dans laquelle le mètre de distance est plutôt respecté, on peut enfin entrer, gel hydroalcoolique et gants à disposition, marquage au sol à la caisse.
Merci de bien vouloir conserver une distance de 1 mètre.
Mais dans les rayons frais,
on est beaucoup trop nombreux.
10, 15 personnes dans certaines allées étroites, Carole est au coude à coude avec deux autres clientes devant les litus.
Il n'y a pas du tout 1 mètre, il laisse rentrer trop de gens. Au tout début du confinement, il n'y avait pas beaucoup de gens dans le magasin et là, c'est reparti. J'ai envie d'être rentable, hein, Carrefour, en même temps, hein. C'est vraiment gênant.
Parfois, le manque de produits favorise aussi les contacts.
Rester un paquet de papier toilette et la personne c'est un limite précipité dessus pour pouvoir le prendre sans faire attention. Vraiment épaule contre épaule.
Certains clients aimeraient qu'un sens unique de circulation soit mis en place. Ce salarié du rayon produits laitiers voudrait juste un peu plus de civisme.
Oui, il y a certains qui ne comprennent pas qu'ils n'ont pas de masque, ils viennent vers toi et tu recules et ils reviennent vers vous encore. Et ils sont toujours dans l'ancien monde en fait. C'est pour ça que des fois je préfère me retirer, je vais dans la réserve. Enfin, des fois c'est vraiment bondé.
Solliciter la direction du magasin n'a pas souhaité nous répondre. Un responsable d'une autre enseigne note qu'avec le port du masque de plus en plus fréquent, il y a moins de respect des gestes barrières.
Jérôme Jadot, eux promettent de respecter les règles de distanciation sociale et tous les gestes barrières dès le début du déconfinement. Les responsables des lieux de culte qui ont récemment signé dans la presse un appel pour pouvoir accueillir les fidèles dès le 11 mai. Seulement, la réouverture des églises n'est pas prévue avant le mois de juin. Injuste selon ces prêtres qui n'ont pas célébré de messe depuis 6 semaines, Julie Pietri.
Si la vie économique reprend le 11 mai, il n'y a pas de raison pour que la vie cultuelle et religieuse soit laissée de côté. Dans cet appel, les prêtres écrivent que se rendre à la messe est une liberté fondamentale et un besoin vital que les célébrations virtuelles ne peuvent entièrement satisfaire, estime le père Nicolas Guillou, curé à Rennes.
On reprendra pas comme avant. Bien sûr qu'il y aura des risques, bien évidemment, mais quand les transports parisiens vont reprendre, ça n'a rien à voir avec 100 personnes dans des églises où il y a 800 places qui sont séparées de 1 mètre, 1 mètre 50, vous voyez.
Au mois de février dernier, un rassemblement religieux évangélique à Mulhouse a été pointé comme un moment clé dans la propagation du virus. Certes, rétorque le père Gilles de Rocourt, curé du côté de la Porte de Pantin à Paris, mais connaissant mieux la maladie, nous pouvons aujourd'hui nous adapter. Il réfléchit par exemple à des messes limitées, accessibles sur invitation.
Je comprends bien les impératifs sanitaires. Nous serions prêts à ce qu'on nous dise, vous pouvez accueillir qu'un quart de participants à la messe, ou de la moitié.
Quitte à multiplier de petites messes. S'il reconnaît ne pas être en mesure de proposer des masques à chaque fidèle.
Ça, nous n'avons pas les stocks pour ça.
Nous avons en revanche, dit-il, déjà du gel hydroalcoolique pour toute personne qui souhaitera entrer dans l'église.
Le déconfinement, il débute demain pour les 6000 habitants de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, proche du Canada et français. Un seul cas confirmé de coronavirus, reprise du travail pour de nombreuses entreprises et commerces, mais pas les bars, restaurants et discothèques. Pour les écoles, ça sera dans quelques jours.
Les 24 heures du Mans pourraient être une nouvelle fois reportées, là aussi à cause du coronavirus.
La prestigieuse course d'endurance déjà décalée une première fois de juin à septembre. Et dans une interview à Motorsport Network, média spécialisé, Pierre Fillon, le président de l'ACO, Automobile Club de l'Ouest, l'organisateur de l'événement, n'exclut pas de faire courir les 24 heures du Mans en octobre, voire en novembre. Mais qu'importe les reports, pourvu que la course ait lieu, selon le pilote Julien Canal, contacté par Alice Cachan.
Pour Julien Canal, membre de l'équipe Panis Racing, il en va tout simplement de la survie de nombreuses écuries automobiles.
Les 24 heures du Mans sont vraiment essentielles à, en tout cas, la vie du sport auto. Il y a énormément d'acteurs du sport auto qui ont leur saison basée à plus de 80% sur cette course. Ne serait-ce qu'au niveau investissement, des voitures, des pièces, etc.
La course est aussi un rendez-vous populaire incontournable. L'an dernier, plus de 250 000 spectateurs ont assisté aux 24 heures du Mans. Un report en octobre ou novembre éviterait à la course de se dérouler à huis clos.
C'est important pour tout le monde, ouais. C'est super important pour déjà le moral des gens, le public, et puis financièrement pour l'organisation, quoi.
Alors certes, au mois de novembre, il faudra se tenir chaud dans les tribunes et il faudra aussi courir de nuit. Mais le pilote sartois Julien Canal préfère relativiser.
C'est vrai que c'est pas du tout la même chose. On aura beaucoup plus de nuit. En même temps, on a connu aussi des 24 heures du Mans en plein mois de juin, avec la moitié de course sous la pluie, des interruptions de course de plusieurs heures. Voilà, on reste dans une région qui est quand même pas facile au niveau du temps. On peut très bien avoir une très belle course, que ce soit en septembre ou en octobre.
C'est la deuxième fois de son histoire que la course des 24 heures du Mans n'a pas lieu au mois de juin.
Alice Cachaner de France Bleu mène de nombreux événements sportifs ou culturels, on le sait, annulés à cause de la pandémie. Certains pourtant décident de ne pas tout annuler. C'est le cas du festival de BD d'Aix-en-Provence qui devait se tenir en ce moment et jusqu'au 31 mai. Les organisateurs ont décidé de mettre une partie de leurs expositions en ligne avec entre autres une planche par jour d'un auteur belge sur le confinement, des visites virtuelles d'ateliers de dessinateurs, mais également une rétrospective, Mathieu Culeron.
Comme de nombreuses manifestations, les rencontres du 9e art d'Aix-en-Provence investissent le web. Un festival qui cette année exposera virtuellement les dessins de Daniel Johnston, disparu en septembre dernier. Chanteur américain admiré par le chanteur de Nirvana ou encore par Sonic Youth, Johnston, entre deux séjours en hôpital psychiatrique, s'est toujours échappé grâce aux dessins. Son personnage le plus célèbre s'appelle Jérémia la grenouille, une bestiole avec des yeux multiples qui se dresse au-dessus de sa tête. Son visage est devenu célèbre car Kurt Cobain l'arborait régulièrement sur son t-shirt. Daniel Johnston revisite également les créatures Marvel et il revendiquait sa passion pour Jack Kirby, l'inventeur de Captain America et autres super-héros.
Captain America, Hulk feel lonely inside.
Johnston les met en scène et leur invente des histoires d'amour et de jalousie. L'auteur américain dessinait aussi le diable, fruit de ses visions lors de ses bouffées délirantes. Johnston ne pouvait plus regarder ses dessins car un seul regard pouvait l'envoyer immédiatement en hôpital psychiatrique. L'œuvre graphique de Daniel Johnston à découvrir sur le site des rencontres du 9e art du Festival d'Aix-en-Provence, une manifestation qui aurait dû se tenir du 4 avril au 31 mai.
Don't be sad, I know you will.
Mathieu Culeron. Et puis cette dernière information du journal du dimanche. Une nouvelle aventure d'Astérix devrait être publiée en octobre. Pas une BD, mais une histoire illustrée adaptée d'un livre audio sorti en 1967.
Partout à Tis, c'était le journal d'Estelle Schmitt.